Les 39 marches. Chapitre 10 et dernier. Confrontation en mer. Me trouvant au Griffin Hotel à Bradgate, par un petit matin de juin rosissant et bleu, je scrutais une mer d'huile sur laquelle le bateau phare du banc de coque se réduisait aux dimensions d'une bouée de sauvetage. Quelques miles vers le sud, beaucoup plus près du rivage, un petit destroyer avait jeté l'ancre. En tant qu'ancien marin, Skeff, l'homme de MacGillivray, reconnut le navire et me dit son nom ainsi que celui du commandant. Je pus donc télégraphier aussitôt à Sir Walter ces informations. Après le petit déjeuner, Skeff obtint d'un gardien la clé donnant accès à une demi-douzaine d'escaliers du Ruff. Je l'accompagnai à pied sur la plage et, tandis qu'il explorait successivement chaque escalier, je restais dissimulé par le recoin de la falaise. Je souhaitais ne pas être vu, bien qu'à cette heure matinale, la plage était totalement déserte, et tout le temps que je demeurais sur le rivage, je ne vis que des mouettes. Skeff mit près d'une heure pour remplir sa mission, et lorsque je le vis revenir, consultant un bout de papier, je dois reconnaître que j'étais extrêmement nerveux. Tout, en effet, reposait sur la confirmation de mes déductions. Il lut à haute voix le nombre de marches pour chacun des escaliers. 34, 33, 39, 42, 47, puis, à l'endroit où la falaise s'abaissait, 21 marches. Je faillis bondir et pousser un cri de joie. Nous regagnâmes la ville en toute hâte pour transmettre ces informations à MacGillivray. Je lui demandai le concours de 6 hommes qui devaient se répartir entre plusieurs postes déterminés. Ensuite, Skeff décida de jeter un coup d'œil à la maison reliée aux 39 marches. Les nouvelles qu'il me rapporta m'intriguèrent et me rassurèrent en même temps. La maison s'appelait Trafalgar Lodge. Elle appartenait à un vieux gentleman du nom d'Appleton, un agent de change retiré des affaires selon le loueur de villa. Monsieur Appleton, qui passait là une bonne partie de l'été, s'y trouvait actuellement et y était resté l'essentiel de la semaine. Skeff ne put obtenir beaucoup d'autres informations à son sujet, sinon que ce vieil homme était quelqu'un de très bien, qu'il payait régulièrement ses factures et tenait toujours à portée de sa main un billet de 5 livres pour les bonnes œuvres du coin. De plus, Skeff avait réussi à s'introduire dans la maison par la porte de service en se présentant comme vendeur de machines à coudre. Seuls 3 domestiques s'y trouvaient, une cuisinière, une bonne et une femme de chambre à l'instar de toute maison bourgeoise bien tenue. La cuisinière n'était pas du genre bavard, et elle eut vite fait de mettre Skeff à la porte, mais il était convaincu qu'elle n'était au courant de rien. L'une des maisons attenantes était neuve et pouvait présenter un point d'observation idéal. De l'autre côté, la villa était à louer et son jardin, sans entretien, était en broussailles. J'empruntai à Skeff sa longue-vue et partis faire un tour sur le Ruff avant le déjeuner. Je me tins constamment à l'arrière de la rangée des villas et découvris un bon poste d'observation à la lisière du terrain de golf. De là, je pouvais voir toute la pelouse qui longeait le sommet de la falaise, avec ses bancs disposés à intervalles réguliers et de petits renfoncements carrés, munis de garde-fous, et entourés de buissons à partir desquels les escaliers descendaient vers la plage. J'avais une vue directe sur Trafalgar Lodge, une villa de briques rouges pourvue d'une véranda, située entre un tennis engazonné à l'arrière et en façade le traditionnel jardinet des stations balnéaires orné de marguerites et de géraniums rabougris. Du mât de pavillon, un Union Jack gigantesque retombait en longs plis dans l'air immobile. C'est alors que je vis quelqu'un sortir de la maison et flâner sur la falaise. En pointant la longue vue sur lui, je distinguai un vieil homme vêtu d'un pantalon de flanelle blanche, d'une veste de serge bleue et d'un chapeau de paille. Il tenait à la main une paire de jumelles marines et un journal. Il s'assit sur l'un des bancs métalliques et se mit à lire. De temps à autre, il reposait son journal sur le banc et dirigeait ses jumelles sur la mer. Il examina attentivement le destroyer. Je l'observai pendant une bonne demi-heure, quand il finit par se lever et retourna dans sa villa pour déjeuner. Je revins à l'hôtel pour l'imiter. Cependant, je ne me sentais pas en confiance. Cette honnête et banale demeure ne répondait guère à l'idée que je m'étais faite. Cet homme pouvait-il être l'archéologue chauve de l'horrible ferme de la Lande? Peut-être pas. Impossible de le dire. Il était tout à fait le genre de vieille baderne que l'on ne manque pas de rencontrer dans les banlieues résidentielles ou dans les stations balnéaires. Si vous cherchiez une personne d'apparence totalement inoffensive, vous ne pouviez trouver mieux. Après le déjeuner, assis à la terrasse de l'hôtel, je fus réconforté en voyant apparaître ce que précisément j'attendais et que j'avais craint de manquer. Un navire remontait du sud et jeta l'ancre juste en face du Ruff. C'était un bateau d'environ 150 tonneaux et son pavillon blanc indiquait son appartenance à l'escadre. En conséquence, je descendis au port avec Skeff et nous engageâmes un batelier pour nous emmener à la pêche. Je vécus une paisible et agréable après-midi sur l'eau, et à nous deux, nous prîmes environ 20 livres de perches et d'aigles fins. Le balancement des flots et la quiétude de cette demi-journée me firent considérer la situation sous un jour plus optimiste. Tout en haut des blanches falaises du Ruff, j'apercevais le rouge et le vert des villas, et plus particulièrement le grand pavillon de Trafalgar Lodge. Vers 4 heures, lassé par la pêche, je demandai au matelot de nous faire faire le tour du navire. Il semblait posé sur la mer comme un bel oiseau blanc prêt à prendre son envol. Skeff observa que c'était un bâtiment très rapide, pourvu d'une puissante machinerie. Il se nommait Ariadne, comme je pus le lire sur le béret d'un des matelots occupés à astiquer les cuivres. Je lui adressai la parole, et il me répondit avec l'aimable accent de l'Essex. Un autre matelot qui survint échangea quelques mots avec nous dans un anglais impeccable. Notre batelier engagea une conversation avec l'un d'eux au sujet du temps, et nous restâmes ainsi quelques minutes à nous balancer à tribord à une longueur d'aviron de la proue. Mais soudain, les hommes se détournèrent et se remirent à leur besogne. Sur le pont, un officier avançait. Et c'était un jeune homme avenant et de bonne mine qui nous posa, dans le meilleur anglais, quelques questions sur notre pêche. Mais il ne pouvait y avoir de doute à son égard. Sa coupe de cheveux en brosse, pas plus que la forme de son col ou du nœud de sa cravate, ne pouvait être anglais. Tout cela me tranquillisa quelque peu. Mais en regardant Bradgate, des doutes m'assaillirent de nouveau. Ce qui me troublait, c'est que nos ennemis savaient que Scudder m'avait transmis ces informations et qu'ils m'avaient donné la clé pour localiser leur repère. S'ils savaient que Scudder avait découvert leur cachette, n'auraient-ils pas inévitablement modifié leur plan? Ils attachaient trop d'importance à la réussite de leur mission pour laisser au hasard la moindre chance. Restait à déterminer jusqu'à quel point ils savaient ce que Scudder avait découvert. La veille au soir, j'avais déclaré avec assurance que les Allemands s'en tiennent strictement à ce qu'ils ont planifié. Mais s'ils soupçonnaient le moins du monde que j'étais sur leur piste, ils auraient eu l'intelligence de rebattre les cartes. Je me demandais si l'homme de la veille s'était rendu compte que je l'avais reconnu. Je ne le pensais pas et m'attachais à cette conviction. Mais toute l'affaire ne m'avait jamais paru aussi périlleuse que cet après-midi-là, alors que, tout compte fait, j'aurais dû me réjouir d'un succès assuré. À l'hôtel, Skeff me présenta au commandant du destroyer avec lequel j'échangeai quelques propos. Après quoi, je crus bon de consacrer une bonne demi-heure à rôder autour de Trafalgar Lodge. Plus loin sur la falaise, dans le jardin d'une maison inoccupée, je trouvai un endroit propice. De là, je voyais directement le cours où deux individus jouaient au tennis. L'un d'eux était le vieil homme déjà vu. L'autre était plus jeune et portait à la taille une écharpe aux couleurs d'un club. Ils jouaient avec intensité, tels des citadins qui cherchent à se défouler par un exercice violent. On ne pouvait imaginer spectacle plus banal. Ils poussaient des cris et des rires et s'arrêtèrent pour boire lorsqu'une servante leur apporta deux gobelets sur un plateau. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux, me demandant si je n'étais pas l'homme le plus soupçonneux de la terre. Un halo maléfique enveloppait les hommes qui m'avaient pourchassé en avion et en auto sur la lande écossaise, et particulièrement aussi ce vieil archéologue machiavélique. Attribuer à de tels gens le coup de couteau fatal à Scudder, aussi bien que les projets menaçant la paix du monde, relevait du bon sens. Mais il s'agissait là de deux citoyens d'apparence honnête, jouant au tennis, s'apprêtant à dîner et à tenir des propos sans intérêt sur la bourse, le cricket ou des ragots de leur surbiton natal dans la banlieue de Londres. J'avais tendu mes filets pour piéger des vautours et des faucons, et patatras, voilà que deux perdrix grassouillettes venaient se jeter dedans. Survint ensuite un troisième individu, un jeune homme à bicyclette portant sur le dos un sac de club de golf. Il déambula nonchalamment autour du court de tennis, où les joueurs l'accueillirent bruyamment. De toute évidence, ces derniers le taquinaient, et leur plaisanterie semblait bien familière. Puis le gros homme, s'épongeant le front à l'aide d'un foulard, déclara qu'il allait prendre un bain. Je l'entendis prononcer mot pour mot. « Je suis terriblement en âge, cela va réduire mon embonpoint et diminuer mon handicap. Vous verrez bien demain, Bob, si je ne vous bats pas. Je conclurai avec un birdie. » On pouvait difficilement trouver d'expression plus british. Ils pénétrèrent tous trois dans la maison, et j'avais l'impression d'être le dernier des imbéciles. Cette fois, c'était sûr, j'avais fait fausse route. Ces hommes jouaient peut-être la comédie. Mais alors pour quel public? Ils ne savaient pas que j'étais à 30 mètres d'eux, caché derrière un rhododendron. Il était vraiment impossible de croire que ces trois joyeux lurons fussent autre chose que ce qu'ils semblaient être, c'est-à-dire trois Anglais ordinaires, banlieusards, appréciant le sport, inintéressants si l'on veut, mais d'une innocence affligeante. Et pourtant, ils étaient trois de ceux-là. Et l'un était vieux, l'autre gros, le troisième brun et maigre, et leur maison concordait avec les indications de Scudder. Et à un demi-mile au large, se balançait un steamer avec à son bord au moins un officier allemand. Je repensais à Karolides assassiné, à l'Europe menacés de cataclysme, et à ceux que j'avais laissés à Londres, et qui attendaient anxieusement ce qui allait se passer d'ici quelques heures. On ne pouvait douter que l'enfer fût sur le point de s'ouvrir quelque part. La pierre noire avait gagné, et si elle survivait à cette nuit de juin, elle l'emportait sur toute la ligne. Il ne me restait plus qu'une chose à faire, aller de l'avant, à fond, comme si je ne doutais de rien, au risque de me ridiculiser. Je n'avais jamais envisagé d'entreprendre une tâche avec autant d'aversion. Dans la disposition d'esprit où je me trouvais, j'aurais préféré surgir dans un repaire d'anarchistes, tous armés d'un Browning, faire face, avec un pistolet à bouchon, à un lion prêt à bondir sur moi, plutôt qu'entrer dans la maison chaleureuse de trois joyeux Anglais et leur annoncer que la partie était terminée. On rirait bien de moi. C'est alors que je me souvins d'une chose que m'avait dite, autrefois en Rhodésie, le vieux Peter. J'ai déjà cité Peter dans ce récit. C'était le meilleur éclaireur que j'ai connu, et avant de rentrer dans le rang, il piétina bien souvent les plates-bandes de la loi, ce qui lui valut d'être recherché activement par les autorités. Peter et moi avions abordé une fois la question des déguisements. Peter me sortit une théorie qui me frappa. D'après lui, hormis les éléments factuels, tels que les empreintes digitales, l'apparence physique était de bien peu d'efficacité si le fugitif savait s'y prendre. Les cheveux teints et les fausses barbes le faisaient rire, ainsi que les autres puérilités du même genre. Une seule chose importait, l'atmosphère, comme disait Peter. Celui qui parvient à se fondre dans un milieu totalement différent de celui où on le connaît habituellement, et qui en outre, c'est le plus important, se met au diapason de ce milieu et se conduit comme s'il en était le produit, celui-là est capable de tromper les plus fins détectives. Et il raconta cette anecdote à l'appui. Ayant un jour emprunté un manteau noir, il alla à l'église et assista à l'office à côté de l'homme qui le recherchait. Si ce dernier l'avait rencontré en honnête compagnie avant ce jour-là, il l'aurait reconnu, mais il ne l'avait jamais vu que dans une taverne, occupé à moucher les lampes à coups de revolver. Le souvenir des propos de Peter m'apporta le premier apaisement véritable de la journée. Je reconnaissais en Peter un vieil oiseau fort avisé, et les types auxquels j'étais confronté constituaient l'élite de la volière. Pourquoi n'userait-il pas du stratagème de Peter? Un sot s'efforce de se faire passer pour un autre. Un homme habile paraît tel qu'il est, tout en étant différent. Peter avait encore une autre maxime que j'avais mise à profit dans mon rôle de cantonnier. Quand vous composez un personnage, vous ne serez jamais à sa hauteur tant que vous ne vous persuaderez pas que vous êtes ce personnage. La partie de tennis s'expliquait peut-être ainsi. Ces gens n'avaient pas besoin de faire illusion, il leur suffisait de tourner un bouton pour changer de vie, dans laquelle ils évoluaient avec le même naturel que dans la précédente. Et Peter ne se lassait pas de répéter que c'était là le grand secret de tous les criminels d'exception. Comme 8 heures du soir approchaient, je retrouvai Skeff pour lui donner des instructions. Nous nous accordâmes sur la façon de disposer ces hommes, et je ressortis faire un tour, car je n'avais aucune envie de dîner. Je longeai le terrain de golf désert, puis gagnait un point de la falaise situé plus au nord derrière la rangée de villas. Sur les jolis petits chemins tout neufs, je croisais des personnes en villégiature qui revenaient d'une partie de tennis ou de la plage, à un garde-côte du poste de TSF, des clowns qui rentraient chez eux avec leur âne. Au large, dans le crépuscule bleu sombre, je vis les feux de l'Ariane s'allumer et plus au sud ceux du Destroyer. Au-delà du banc de coque, les feux plus puissants de navigation signalaient l'entrée de la Tamise. Tout ce spectacle était si paisible et si conforme que ma défiance s'émoussait à chaque seconde. Vers 9h30, je dus prendre mon courage à deux mains pour me diriger vers Trafalgar Lodge. Chemin faisant, je repris confiance à la vue d'un lévrier qui marchait d'un pas élastique derrière son maître. Il me rappela un chien que j'avais possédé en Rhodésie et l'époque où je l'emmenais sur les monts Pali chasser l'antilope de la variété Aubert. Or, un jour, que nous en poursuivions une, nous la perdîmes subitement tous les deux. Un lévrier se fit à sa vue, et j'ai moi-même de bons yeux. Mais cette antilope s'était évanouie purement et simplement dans le paysage. Par la suite, je me rendis compte de sa manœuvre. Sur la roche grise des petites montagnes du Veldt, les Kopjes, elle ne se détachait pas plus qu'un point sur une tache de même couleur. Elle n'avait pas besoin de détaler. Il lui suffisait de rester immobile et se laisser absorber par le paysage. À peine ce souvenir me revint-il en mémoire que je l'appliquai à la situation présente et en tirai la conclusion. Les individus de la pierre noire n'avaient pas besoin de déguerpir, ils se confondaient tout simplement dans le paysage. J'étais sur la bonne piste, et m'enfonçant cette vérité dans le crâne, je me promis de ne plus l'oublier. Le dernier mot restait à Peter. Les hommes de Skef devaient maintenant être à leur poste, mais on ne voyait âme qui vive. La maison se livrait au regard des passants comme une place publique. Une clôture de 3 pieds de haut la séparait du chemin de la falaise. Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée étaient ouvertes. Des lumières tamisées et les échos assourdis d'une conversation indiquaient que ses occupants achevaient de dîner. Tout se tenait en totale transparence. Tout en ayant le sentiment d'être le dernier des paranoïaques, j'ouvris le portillon et sonnai à la porte. Un type de mon genre, qui est passé par les endroits du monde les plus éprouvants, s'accommode très bien avec les deux catégories d'individus que l'on peut qualifier de premier plan et de niveau modeste. Je comprends ces gens, et ceux-ci me comprennent. Je me trouve en familiarité avec les paysans, les vagabonds, les cantonniers. Je suis également à l'aise avec des hommes comme Sir Walter ou ceux que j'avais rencontrés la veille. Je ne sais pourquoi, mais c'est comme ça. En revanche, ceux que je ne comprends pas, ce sont ces gens de la bourgeoisie moyenne, satisfaits de soi et prétentieux, que l'on peut rencontrer ici et là dans de suffisantes villas de la banlieue. Je ne partage pas leur façon de voir, leurs préjugés, et en leur présence, je me sens aussi méfiant que face à un cobra. Quand une pimpante soubrette vint m'ouvrir la porte, j'eus du mal à retrouver ma voix. Je demandai Monsieur Appleton, et on me fit entrer. J'avais pour intention de me rendre directement dans la salle à manger, et par ma brusque apparition, de provoquer chez ces hommes qui devaient me connaître, le sursaut révélateur confirmant mon hypothèse. Mais quand je me trouvai dans cet élégant vestibule, son aspect me neutralisa. Il y avait là des clubs de golf et des raquettes de tennis, des chapeaux de paille et des casquettes, un assortiment de gants, un porte-canne garni, tout ce qu'on peut voir dans des milliers d'habitations anglaises bourgeoises. Plusieurs pardessus et imperméables, correctement pliés, était déposée sur le couvercle d'un coffre ancien en chêne. On entendait le tic-tac d'une horloge ancienne. Des bassinoires de cuivre poli ornaient les murs, ainsi qu'un baromètre et une lithographie de Hatcher remportant le St. Leger Stakes. Cet intérieur était aussi conformiste qu'une église anglicane. Lorsque la soubrette me demanda mon nom, je le lui donnai machinalement, et elle me fit entrer dans le fumoir sur la droite du vestibule. Le fumoir était encore plus conventionnel. Je n'eus pas le temps de l'examiner en détail, mais au-dessus de la cheminée, j'aperçus plusieurs photos encadrées, et j'aurais juré que c'étaient des portraits de groupes de collégiens ou d'étudiants d'universités anglaises. Je n'y jetai qu'un rapide regard, car je préparais mon entrée et suivais la femme de service. Mais j'arrivai trop tard. Elle m'avait précédé dans la salle à manger et donné mon nom à son maître. Je ratai ainsi l'occasion de voir l'effet qu'il avait produit sur les trois hommes. À mon entrée, le vieil homme, placé en bout de table, se leva pour venir à ma rencontre. Il était en tenue sombre, blazer et cravate noire, comme l'autre que j'appelais en moi-même le gros. Quant au troisième, celui à cheveux bruns, il portait un complet de serge bleu, un col blanc souple et les couleurs d'un club ou d'un collège. L'accueil du vieil homme fut parfait. « Monsieur Haney ?» dit-il avec hésitation. « Vous désirez me voir ?»« Un instant, mes amis, je vous prie. Je reviens dans quelques instants. Voulez-vous me suivre dans le fumoir ?» Bien que n'ayant pas la moindre assurance, je me forçai à engager la partie. Je saisis une chaise et m'y installai. Je lui répondis « Je pense que nous nous sommes déjà rencontrés. Vous connaissez sûrement la raison qui me conduit ici. » Malgré la faible luminosité de la pièce, je pus néanmoins voir à leur physionomie qu'ils jouaient tous trois à merveille l'incompréhension. « Possible, possible, répondit le vieil homme. Je n'ai pas très bonne mémoire, mais je vous prie néanmoins, monsieur, d'exposer le but de votre visite, car en vérité, je n'en ai pas la moindre idée. « Eh bien, voilà, repris-je, cependant que je me faisais l'effet de débiter de pures inepties. Je suis venu vous dire que la partie est terminée. Messieurs, j'ai en poche un mandat d'arrêt contre vous trois. » « Un mandat d'arrêt ? » fit le vieil homme, d'un air visiblement scandalisé. « Un mandat d'arrêt ? Juste ciel ! Et pour quel motif ?»« Pour l'assassinat de Franklin Scudder, à Londres, le 23 du mois dernier. »« C'est la première fois que j'entends ce nom, » répliqua le vieil homme, d'un air abasourdi. L'un de ses compagnons prit la parole. « C'est l'homme qui a été assassiné à Portland Place. » Je me rappelle l'avoir lu. Mais bon Dieu, monsieur, c'est de la démence. D'où sortez-vous ces accusations ? De Scotland Yard, répliquai-je. Il y eut alors une minute d'un silence total. Le vieil homme, les yeux baissés sur son assiette, manipulait une noix. Il incarnait l'illustration parfaite de l'innocence. Puis le gros parla. Il hésitait un peu, comme s'il cherchait ses mots. « Ne vous tourmentez pas, mon oncle. Tout cela n'est qu'une absurde méprise, comme cela arrive parfois. Mais nous n'aurons pas de difficulté à rétablir les faits et à démontrer notre innocence. Je puis prouver que, le 23 mai, j'étais à l'étranger, que Bob était dans un sanatorium. Il est vrai que vous étiez à Londres, mais vous pouvez dire ce que vous y faisiez ce jour-là. Bien sûr, Percy, rien de plus simple. Le 23, voyons, c'était le lendemain du mariage d'Agathe. Ce que je faisais, je suis arrivé de Woking le matin et déjeunais au club avec Charlie Simmons. Après, ah oui, j'ai dîné chez les Fishmongers. Je me le rappelle, car le punch ne m'a pas réussi, et je me suis trouvé indisposé le lendemain. Tenez, voici la boîte à cigares que l'on m'a offerte lors de ce dîner. Et, avec un rire nerveux, il désigna l'objet sur la table. S'adressant à moi avec déférence, le jeune homme ajouta « Je crois, monsieur, que vous devez reconnaître votre erreur. Comme tout bon Anglais, nous ne demandons pas mieux que d'aider la justice, et nous ne tenons pas à ce que les gens de Scotland Yard soient tournés en dérision. N'est-ce pas, mon oncle ?» Le vieil homme sembla retrouver la parole. « Assurément, Bob, assurément. Nous ferons tout notre possible pour aider les autorités. Mais ceci est un peu exagéré. Je n'en reviens pas. « Comme Nelly va glousser, dit le gros homme, elle qui prétend toujours que vous finirez par mourir d'ennui parce qu'il ne vous arrive jamais rien. Mais cette fois-ci, vous êtes servi à souhait. » Et il se mit à rire, l'air très amusé. « Pardieu, c'est vrai quand j'y pense. Quelle histoire à raconter au club ! En vérité, monsieur Haney, je devrais plutôt me fâcher, démontrer mon innocence, mais c'est vraiment trop drôle. Je vous pardonne presque la frayeur que vous m'avez faite. À vous voir si sombre, je me demandais si je n'avais pas tué quelqu'un dans un accès de somnambulisme. » C'était d'évidence trop sincère pour être de la comédie. Je sentais mon courage m'abandonner, et ma première pensée fut de m'excuser et de déguerpir. Mais je me répétais que je devais aller jusqu'au bout, dussé-je devenir la risée du Royaume-Uni. Sur la table, les bougies donnaient une faible clarté, et pour masquer mon trouble, je me levai, m'approchai de la porte, et, tournant le commutateur, donnai l'électricité. L'illumination soudaine de la pièce les aveugla tous, et j'en profitai pour examiner leurs traits. Je ne pus rien en tirer. L'un était vieux et chauve, l'autre épais, le troisième brun et mince. D'après leur apparence, rien ne les distinguait des trois hommes qui m'avaient poursuivi en Écosse, mais rien non plus ne me permettait de les confondre. Malgré ma bonne mémoire et mes qualités d'observation, j'en suis encore à me demander comment et par quel mystère. Après avoir détaillé deux de ses visages en tant que cantonnier, et le troisième dans mon rôle de Ned Hensley, je ne pouvais me faire une certitude. Ces trois hommes semblaient exactement être ce qu'ils prétendaient, et je ne pouvais être certain d'en reconnaître un seul. Dans cette sympathique salle à manger, avec ses gravures au mur et le portrait d'une vieille lady en grande tenue au-dessus de la cheminée, rien ne pouvait les relier aux criminels à mes trousses sur la lande. Sur l'étui à cigarette en argent posé à côté de moi, je pus lire qu'il avait été gagné par Percival Appleton, Esquire, du St. Bede's Club lors d'un tournoi de golf. Il fallait que je me raccroche fermement aux théories de Peter pour ne pas m'enfuir aussitôt de la maison. « Eh bien, monsieur, dit poliment le vieil homme, êtes-vous satisfait de votre inspection ?» Je demeurai interdit. « Vous reconnaîtrez, j'espère, que vous êtes dans la nécessité d'abandonner cette ridicule affaire. Je ne porterai pas plainte, mais vous pouvez comprendre combien cela peut être pénible pour d'honnêtes citoyens. » Je secouai négativement la tête. « Bon sang ! S'exclama le jeune homme. « C'est trop fort !» « Avez-vous l'intention de nous conduire au poste de police ?» demanda le gros. « Ce serait peut-être la meilleure façon d'en finir. » « Mais je suppose qu'un commissariat local ne conviendra pas. J'ai le droit d'exiger que vous nous montriez votre mandat, bien que je ne tienne pas à vous attirer des ennuis. Vous faites votre devoir, après tout. Mais admettez que tout cela est terriblement embarrassant. Quelles sont vos intentions ?» il ne me restait qu'une alternative. Appeler mes hommes et les faire tous arrêter, ou reconnaître ma bourde et m'éclipser. Je me sentais comme envoûté par cet entourage, par l'innocence palpable, et pas seulement par l'innocence, mais par l'étonnement et la candeur embarrassée qui se lisaient sur ces trois honnêtes visages. « Oh, Peter !» me lamentais-je intérieurement. Et pendant un instant, je fus sur le point de me convaincre de ma stupidité et de me confondre en excuses. Puisqu'il insiste, et pour permettre à M. Haney de retrouver son bon sens, « je propose que nous fassions une partie de bridge, » dit le gros. « Cela tombe bien, il nous fallait un quatrième joueur. Voulez-vous jouer, monsieur ?» J'acceptai comme s'il s'agissait d'une banale invitation dans un club. Toute cette atmosphère m'avait magnétisé, je le répète. Nous entrâmes dans le fumoir où se trouvait une table de jeu et l'on me proposa à boire et à fumer. Comme dans un songe, je pris machinalement place à la table. Par la fenêtre ouverte, on voyait la lune baigner, de sa lumière diaphane, les falaises et la mer. Mon esprit était nimbé de cette même lumière opalescente. Les trois hommes avaient retrouvé leur sang-froid et parlaient avec bonhomie, émaillant leurs propos de ce langage familier tenu entre collègues d'un club de sport. Je devais faire une drôle de tête au milieu d'eux, avec mes sourcils froncés et mes regards éperdus. J'avais pour partenaire le jeune homme brun. Habituellement, je joue plutôt bien au bridge. Mais ce soir-là, je dus être absolument exécrable. Ils sentaient que j'étais déstabilisé, et cela leur inspirait une confiance grandissante. Je ne les perdais pas de vue, mais je n'arrivais pas à percer leur masque. Ce n'est pas qu'ils semblaient être différents. Ils étaient différents. Je me raccrochais désespérément aux maximes de Peter. C'est alors qu'un rien m'ouvrit les yeux. Le vieil homme voulut prendre un cigare, mais au lieu de le choisir d'emblée, il laissa retomber sa main et, s'adossant un instant à son fauteuil, ses doigts tambourinèrent sur ses genoux. Alors que je me tenais devant lui avec, braqué sur moi, les revolvers de ses gardes, je l'avais vu faire exactement le même geste dans la ferme de la Lande. C'était un rien qui dura une seconde à peine, et il y avait fort à parier pour que cela m'échappât. Mais je le surpris, et en un éclair, l'atmosphère se rompit. Le brouillard qui enveloppait mon esprit se déchira, et ce fut en pleine et absolue conscience que je reconnus les trois hommes. La pendule de la cheminée sonnait à l'instant 10 heures du soir. Leurs visages semblaient se déformer sous mes yeux et me révéler leurs secrets. Le jeune homme était l'assassin. Je discernais à présent une impitoyable cruauté là où je n'avais vu que de la bonne humeur précédemment. C'était son poignard, je n'en doutais plus, qui avait cloué Scudder au sol. C'était son semblable qui avait transpercé Carolides d'une balle. Les traits du gros homme me semblaient se dissocier et se reformer continuellement sous mes yeux. Il possédait non pas un seul visage, mais bien 100 masques différents qu'il revêtait à loisir. Ce garçon eût fait un acteur extraordinaire. J'ignorais s'il était ou non le Lord Alois de la soirée précédente, mais peu m'importait. C'était lui, je le devinais, qui avait d'abord repéré Scudder et déposé sa carte dans sa boîte aux lettres. D'après Scudder, il zézayait, et j'imaginais sans peine combien cette affection pouvait contribuer à le rendre effrayant. Mais le vieux leur était bien supérieur. Il incarnait le mal absolu, froid, impassible, mathématique, impitoyable comme une machine à broyer. À présent que mes yeux s'étaient ouverts, je ne voyais plus en lui la moindre trace d'affabilité. Sa mâchoire semblait trempée dans l'acier, et de ses yeux émanait une animale phosphorescence. Cependant, je continuais de jouer et à chaque seconde une haine plus féroce envahissait mon cœur. Elle m'étouffait, et je ne parvenais plus à répondre à mon partenaire. Leur compagnie m'était devenue repoussante. « Et là, Bob, vous avez oublié l'heure, » dit le vieil homme. « Vous feriez bien de penser à prendre votre train. » S'adressant à moi, il ajouta, « Bob doit partir en ville ce soir. » Sa voix désormais sonnait avec une fausseté machiavélique. Je consultai la pendule, il était près de 10h30. « Je regrette, mais il faudra qu'il renonce à ce voyage, » déclarai-je. « Ah non !» s'exclama le jeune homme. « Je croyais que vous aviez cessé cette mauvaise blague. Il faut vraiment que j'y aille. Si vous le voulez, je vous laisse mon adresse, ainsi que toutes les garanties qui vous paraîtront nécessaires. » « Non, vous devez rester, » répliquai-je avec fermeté. Ils durent comprendre que la roue avait tourné. Leur seul espoir était de me convaincre que je commettais une grossière erreur, et ils avaient échoué. Le vieillard prit de nouveau la parole. « Je me porte garant de mon neveu. Cela devrait être suffisant, monsieur Hannay. » Était-ce mon imagination? Mais je crus percevoir de l'inquiétude dans le ton placide de sa voix. Il y en avait certainement, car lorsque je le regardai, ses paupières retombèrent et ses yeux s'encapuchonnèrent comme ceux d'un faucon. La crainte me l'avait gravée en mémoire. Je donnai le signal d'alerte. À l'instant, toutes les lumières furent éteintes. Deux bras vigoureux me saisirent le torse, m'empêchant d'atteindre les poches où l'on porte habituellement un revolver.
« Schnell, Franz! Das Boot! Das Boot !»
cria une voix, tandis que je voyais deux agents surgir sur la pelouse, éclairés par la lune. Le jeune homme brun s'élança, et sautant par la fenêtre, il franchit la clôture avant que quelqu'un pût l'atteindre. J'agrippai le vieux, tandis que plusieurs individus pénétraient dans la pièce. Je vis empoigner le gros, mais je ne me préoccupai que de ce qui se passait au dehors. Franz se précipita vers l'entrée de l'escalier donnant sur la plage. Un homme le poursuivait, mais sans parvenir à le rattraper. Le fugitif verrouilla la porte de l'escalier derrière lui, et je demeurai, le regard fixe, serrant toujours la gorge du vieux aussi longtemps qu'il fallait à un homme pour descendre les marches jusqu'à la plage. Soudain, le prisonnier m'échappa et s'élança vers le mur. Il se fit un déclic, comme si on venait de déclencher un mécanisme. Très loin, très profondément sous le sol, un grondement sourd monta jusqu'à nous, et par la fenêtre, je vis jaillir un nuage de craie pulvérisé à l'entrée de l'escalier. Quelqu'un ralluma les lampes. Le vieil homme me regardait avec des yeux enflammés. « Il a réussi !» s'écria-t-il. « Vous ne l'attraperez pas. Il est déjà loin et victorieux. »«
Der Schwarzstein ist in der Siegeskrone. »
La pierre noire est enchâssée dans la couronne de la victoire. Ses yeux exprimaient bien plus que la simple joie de la victoire. Naguère encapuchonnés comme ceux d'un oiseau de proie, ils étincelaient à présent avec la fierté d'un faucon. La brûlante flamme du fanatisme crépitait en eux, et je compris alors quelle puissance malfaisante j'avais combattue. Cet homme était plus qu'un espion. D'une façon délirante, c'était un patriote. Tandis que les menottes se refermaient sur ses poignets, je lui lançai ces derniers mots. « Vous pouvez toujours compter que Franz aura le temps de savourer sa victoire. Je dois vous informer que l'Ariadne est sous notre contrôle depuis une heure. » Comme nous le savons tous, nous entrions en guerre 3 semaines plus tard. Dès la première semaine, je m'engageais dans l'armée, et mon expérience acquise au Matabeleland me valut le grade de capitaine. mais je pense avoir livré ma plus grande bataille avant même de revêtir mon uniforme militaire.